Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe. Tome 2. H.P. Lovecraft. Par Nicolas Planchet. Les montagnes de la démence. Si je me vois obligé de parler, c'est parce que des hommes de science refusent de suivre mes conseils sans connaître mes motifs. C'est tout à fait à contre-cœur que je vais exposer les raisons pour lesquelles je m'oppose à ce projet d'invasion de l'Antarctique qui tournerait à la vaste chasse aux fossiles avec forage à grande échelle et fonte de l'antique calotte glaciaire à la clé. Et je suis d'autant plus réticent que mes avertissements pourraient s'avérer vains. Étant donné la nature des faits que je m'apprête à révéler, il est inévitable que ceci provoque l'incrédulité du lecteur. Et cependant, si j'omettais ce qui paraîtra extravagant et incroyable, il ne resterait rien. Les photographies classiques ou aériennes que jusqu'ici je gardais pour moi témoigneront en ma faveur, car elles sont diablement précises et impressionnantes. Pourtant, on remettra en doute leur véracité, car on peut aller très loin avec de faux habiles. Bien entendu, les gens se riront des dessins à la plume, ils crieront à l'imposture flagrante en faisant abstraction de la technique singulière qui devrait intéresser et intriguer les experts en histoire de l'art. En dernier ressort, je dois compter sur le jugement et le prestige de quelques sommités scientifiques qui auront assez d'indépendance d'esprit pour apprécier mes effroyables données sans idées préconçues ou à la lumière de certains cycles mythiques primordiaux et hautement déconcertants, mais seront aussi dotés de l'influence nécessaire pour dissuader l'ensemble des explorateurs du monde de mener tout programme imprudent et trop ambitieux dans la région de ces montagnes de la démence. Il est dommage que des hommes relativement obscurs, comme mes associés et moi, qui ne sommes liés qu'à une petite université, aient peu de chances de faire forte impression quand se posent des problèmes par trop bizarres ou polémiques. Que nous ne soyons pas, à proprement parler, spécialistes des domaines principalement concernés joue en notre défaveur. Mon objectif, en tant que géologue et chef de l'expédition de l'université Miskatonic, était uniquement de prélever des spécimens de roches et de sols dans les profondeurs de différentes parties de l'Antarctique, avec l'aide de la remarquable foreuse conçue par le professeur Frank H. Pabody, de notre département d'ingénierie. Je ne désirais aucunement devenir pionnier d'un quelconque autre domaine, mais j'espérais qu'en utilisant cette nouvelle machine pour forer en différents points déjà explorés, nous pourrions mettre au jour des matériaux que l'on n'avait encore jamais pu atteindre par des procédés normaux. L'appareil de Pabody, comme le public l'a déjà appris à travers nos rapports, était radicalement unique, à la fois léger, portatif et capable de combiner un petit trépan au principe de forage artésien classique, de manière à venir au bout rapidement des couches de dureté variables. Tête d'acier, bras articulés, moteur à essence, dérique pliant en bois, équipement de dynamitage, câblage, foreuse pour le déblayage des déchets et section de tuyaux pour forage de 5 pouces de large sur 330 mètres de long en tout, avec les accessoires nécessaires. 3 traîneaux de 7 chiens suffisaient à transporter le tout, grâce à l'habile alliage d'aluminium qui composait la plupart des pièces métalliques. 4 gros avions d'ornier, spécialement étudiés pour le vol à très haute altitude qui s'impose sur le plateau antarctique, et dotés de dispositifs de réchauffement du carburant et de démarrage rapide de l'invention de Pabody, purent ainsi emmener notre expédition tout entière depuis une base située au bord de la Grande Barrière de Glace jusqu'à différents points choisis à l'intérieur des terres, d'où nous pourrions continuer avec un contingent suffisant de chiens. Nous avions prévu de couvrir le maximum de territoire en une saison antarctique, voire plus si cela s'avérait absolument nécessaire, en nous concentrant sur les chaînes de montagnes et le plateau au sud de la mer de Ross. des régions plus ou moins explorées par Shackleton, Amundsen, Scott et Bird. En changeant fréquemment de camp, en avion afin de parcourir des distances suffisantes pour que les déplacements aient un intérêt sur le plan géologique, nous comptions faire une quantité de prélèvements sans précédent, surtout dans les strates précambriennes où l'on avait jusque-là recueilli des spécimens fort peu variés sur ce continent. Nous souhaitions aussi obtenir la plus grande variété possible de roches fossilifères des couches supérieures, l'histoire de la vie primitive de ce sinistre royaume des glaces étant de la plus haute importance pour la connaissance du passé de la Terre. Il est communément admis que le continent antarctique a connu un climat tempéré, voire tropical, et qu'il grouillait de formes de vie végétales et animales dont les lichens, la faune marine, les arachnides et les manchots sont les seuls survivants. Mais nous espérions apporter plus de variété, de précision et de détails sur ce point. Au cas où un simple forage révélerait des signes fossilifères, il était prévu d'élargir l'ouverture à la dynamite afin de prélever des spécimens de taille suffisante et en bon état. Nos forages, de profondeur variable selon les promesses du sol ou de la roche superficielle, devaient se limiter aux surfaces totalement ou partiellement découvertes, autrement dit, aux pentes et arêtes, les basses terres étant recouvertes d'un manteau de glace pure d'une épaisseur d'un kilomètre et demi à 3 kilomètres. Nous ne pouvions pas nous permettre de perdre du temps à forer une couche de glace un tant soit peu profonde, même si Pabody avait élaboré un plan visant à regrouper les sondages, puis à enfoncer des électrodes de cuivre dans le manteau afin de faire fondre des zones limitées en faisant passer dans les fils l'électricité produite par une dynamo à essence. C'est ce projet que nous ne pouvions mettre à exécution dans une expédition comme la nôtre, sinon à titre expérimental, que la future expédition Starkweather-Moore se propose de mettre en œuvre malgré les avertissements que je diffuse depuis notre retour de l'Antarctique. Le public a entendu parler de l'expédition de l'Université Miskatonic grâce aux fréquents communiqués envoyés par TSF à l'Arkham Advertiser et à la Associated Press, mais aussi à travers les articles que Pabody et moi avons publiés après notre retour. L'expédition était constituée de 4 chercheurs de l'université. Pabody, Lake du département de biologie, Atwood du département de physique, mais aussi un météorologue de son état, et moi-même, qui représentait la géologie et assurait le commandement nominal, plus 16 assistants, 7 étudiants diplômés de l'établissement, et 9 mécaniciens compétents. Sur ces 16 personnes, 12 étaient qualifiées pour piloter un aéroplane, 10 d'entre elles sachant aussi se servir d'une radio. En plus de Pabody, Atwood et moi, 8 assistants s'y entendaient en navigation au compas et au sextant. Et bien sûr, nos 2 navires, d'anciens baleiniers de bois renforcés pour affronter les glaces et munis de moteurs auxiliaires à vapeur, possédaient un équipage complet. La fondation Nathaniel Derby Pickman finança l'expédition avec le concours de quelques contributeurs particuliers. Aussi nos préparatifs furent-ils extrêmement minutieux malgré le manque de publicité. Les chiens, les traîneaux, les machines, le matériel de campement et les pièces détachées de nos 5 avions furent livrés à Boston où l'on chargea nos navires. Nous étions merveilleusement bien équipés pour nos objectifs spécifiques et, pour tout ce qui concernait l'approvisionnement, le régime de vie, les transports et la construction des camps, nous pouvions suivre l'excellent exemple de nos nombreux et néanmoins exceptionnellement brillants prédécesseurs récents. C'est le nombre étonnant et la renommée des 10 prédécesseurs qui firent que notre expédition, si ambitieuse fut-elle, passa presque inaperçue chez le grand public. Comme le rapportèrent les journaux, nous quittâmes le port de Boston le 2 septembre 1930, puis, tranquillement, nous longeâmes la côte, franchîmes le canal de Panama et fîmes escale aux Samoa, puis à Hobart en Tasmanie, où nous chargeâmes nos dernières provisions. Personne parmi nous n'étant encore allé dans les régions polaires, nous nous reposâmes beaucoup sur les capitaines de nos bateaux, tous 2 baleiniers vétérans dans les eaux de l'Antarctique. G.B. Douglas, commandant le brick Arkham et responsable de tout ce qui concernait l'équipage et les navires, et George Thorne-Finson, à la tête du 3-mâts barque Miskatonic. Tandis que nous laissions derrière nous le monde habité, le soleil s'enfonçait de plus en plus au nord et restait chaque jour un peu plus longtemps au-dessus de la ligne d'horizon. Vers 62 degrés de latitude sud, nous vîmes nos premiers icebergs, des monstres en forme de plateau avec des parois verticales, et juste avant d'atteindre le cercle polaire que nous traversâmes le 20 octobre avec les pittoresques cérémonies de rigueur, nous commençâmes à être sérieusement gênés par la banquise. Je souffrais beaucoup de la chute de température après notre longue traversée des tropiques, mais faisais de mon mieux pour me préparer aux rigueurs à venir qui seraient pires. J'eus maintes occasions de m'émerveiller devant les effets atmosphériques, notamment un mirage saisissant de réalisme, le premier que j'ai jamais vu, dans lequel les lointains icebergs formaient les remparts d'inimaginables châteaux cosmiques. Nous nous frayâmes un chemin à travers les glaces qui, heureusement, n'étaient ni étendues ni épaisses, et retrouvâmes les eaux libres par 67 degrés de latitude sud et 175 degrés de longitude est. Le matin du 26 octobre apparut au sud un fort miroitement annonçant la Terre. Avant midi, nous ressentîmes tous un frisson d'excitation devant le spectacle d'une vaste chaîne de montagnes élevée et couverte de neige, chaîne qui se déployait devant nous sur toute la longueur de l'horizon. Nous rencontrions enfin un poste avancé du grand continent inconnu, mystérieux monde de mort glacée. Il s'agissait de toute évidence de la chaîne de l'Amirauté découverte par Ross, et nous allions à présent devoir contourner le cap Adar avant de longer la côte est de la Terre Victoria jusqu'à notre future base sur le rivage du détroit de McMurdo, au pied du volcan Erebus, par 77 degrés 9 minutes de latitude sud. La dernière partie du voyage fut revigorante et stimulante pour l'imagination. Deux grands pics mystérieux et stériles se dressaient constamment à l'ouest, tandis que le soleil de midi, très bas à l'horizon nord, ou le soleil de minuit, plus bas encore au point qu'il dépassait à peine l'horizon sud, dardait ses rayons rougeâtres et troubles sur la neige blanche, la glace et les ruisselets bleuâtres et les taches noires, aux endroits où le granit des pentes n'était pas recouvert. Sur les cimes désolées soufflait en bourrasques rageuses et intermittentes le vent terrible de l'Antarctique. Un vent dont les modulations évoquaient parfois vaguement les sifflements mélodieux et presque réfléchis d'une flûte sauvage. Un instrument à la tessiture large et dont les notes, par quelque rapprochement mémoriel subconscient, avaient quelque chose d'inquiétant, voire même d'effrayant. Le décor me rappelait les étranges et perturbantes peintures asiatiques de Nicolas Roerich, et les descriptions encore plus étranges et perturbantes du maléfique plateau mythique de Leng, qui apparaît dans le redouté Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Hazred. Plus tard, j'aurai l'occasion de regretter d'avoir jamais ouvert ce livre monstrueux à la bibliothèque de l'université. Le 7 novembre, alors que nous avions momentanément perdu de vue la chaîne de l'Ouest, nous dépassâmes l'île Franklin. Le lendemain, nous aperçûmes devant nous les cônes des monts Erebus et Terror, sur l'île de Ross, avec au-delà la longue chaîne des monts de Paris. À partir de là s'étendait vers l'est la basse ligne blanche de la Grande Barrière de Glace, qui se pressait perpendiculairement sur une hauteur de 70 mètres, telles les falaises rocheuses de Québec, et marquait la fin de la navigation vers le sud. Dans l'après-midi, nous entrâmes dans le détroit de McMurdo, en restant au large de la rive, du côté soulevant du mont Erebus fumant. Les scories montaient à 3800 mètres dans le ciel oriental, vision rappelant une estampe japonaise du Fujiyama sacré, tandis que plus loin se dressait le sommet blanc et fantomatique du mont Terror, volcan éteint de 3300 mètres. L'Erebus crachait parfois des bouffées de fumée, et l'un des étudiants qui nous assistait, un jeune homme brillant du nom de Danforth, indiqua ce qui nous parut être une coulée de lave sur la pente neigeuse, en faisant remarquer que cette montagne, découverte en 1840, avait un empoint douté inspiré Poe lorsqu'il écrivit 7 ans plus tard la description suivante. « Les laves impatientes qui déroulent leurs flots sulfureux sur l'Yaanek dans les climats extrêmes du pôle, grondent en dévalant Lianek, au pays du pôle boréal. Danforth, qui était un grand amateur de littérature bizarre, avait beaucoup parlé de Poe. Si je m'y intéressais pour ma part, c'était parce que l'action de la seule histoire longue que Poe ait écrite, Les aventures d'Arthur Gordon Pym, un récit inquiétant et énigmatique, se passait en Antarctique. Sur la côte stérile et sur la haute barrière de glace en arrière-plan, des milliers de manchots grotesques piaillaient en agitant leurs nageoires. Pendant ce temps sur l'eau, on voyait nombre de phoques adipeux nager ou vautrer sur de grands blocs de glace dérivant lentement. À l'aide de petits canots, nous effectuâmes le difficile débarquement sur l'île de Ross peu après minuit le matin du 9. Nous tirâmes un câble depuis chacun de nos navires et nous préparâmes à décharger le matériel au moyen d'une tyrolienne. En posant le pied pour la première fois sur le sol antarctique, nous ressentîmes un mélange de sensations poignantes et complexes, même si les expéditions Scott et Shackleton étaient déjà passées à cet endroit précis. Le camp que nous établîmes sur la rive gelée, sous la pente du volcan, n'était que provisoire, l'Arkham restant notre quartier général. Nous débarquâmes tout notre matériel de forage, les chiens, traîneaux, tentes, provisions, réservoirs d'essence, l'équipement expérimental de fusion des glaces, les appareils photo classiques et pour prise de vue aérienne, pièces détachées d'avions et autres accessoires, dont trois petits postes de TSF portatifs, en plus des radios des avions, qui nous permettraient de communiquer avec la grande installation de l'Arkham depuis n'importe quel point du continent que nous serions susceptibles de visiter. Le dispositif installé sur le bateau, en liaison avec le monde extérieur, devait transmettre nos communiqués de presse à la puissante installation TSF de l'Arkham Advertiser à Kingsport Head, dans le Massachusetts. Nous espérions terminer notre travail en l'espace d'un seul été antarctique, mais, si cela s'avérait impossible, nous hivernerions sur l'Arkham en envoyant le Miskatonic au nord, avant l'extension des glaces, afin qu'il aille chercher des provisions pour un second été. Inutile de répéter ce que les journaux ont déjà publié de nos premiers travaux, notre ascension du mont Erebus, nos forages couronnés de succès à divers endroits de l'île de Ross, et la rapidité étonnante avec laquelle la machine de Pabody les avait menés à bien, y compris quand il avait fallu traverser des couches de roches dures. Notre premier essai du petit équipement pour faire fondre la glace, notre périlleuse ascension de la grande barrière avec nos traîneaux et nos provisions, et le montage final des 5 énormes aéroplanes dans le camp, au sommet de la dite barrière. La santé des 20 hommes et 55 chiens de traîneau d'Alaska qui composaient notre équipe terrestre était excellente, même si, bien entendu, nous n'avions encore affronté ni température ni tempête vraiment destructrice. La plupart du temps, le thermomètre oscillait entre moins 17 et moins 5 degrés, voire zéro, et notre expérience des hivers de Nouvelle-Angleterre nous avait habitués aux rigueurs de ce genre. Le camp sur la barrière était semi-permanent et nous servait à stocker à l'abri essence, provisions, dynamite et autres réserves. 4 avions suffisaient à transporter le matériel d'exploration à proprement parler. Le 5e resterait à l'entrepôt avec un pilote et 2 hommes d'équipage des navires, afin que l'Arkham puisse nous retrouver, au cas où tous les autres appareils seraient perdus. Ultérieurement, quand nous n'aurions plus besoin des autres avions pour transporter le matériel, un ou deux d'entre eux feraient la navette entre cet entrepôt et une autre base permanente sur le Grand Plateau, entre 950 et 1100 km au sud, au-delà du glacier Beardmore. Malgré les récits quasi unanimes faisant état des vents et tempêtes effroyables balayant le plateau, nous décidâmes de nous passer de bases intermédiaires. C'était un risque à prendre au nom de l'économie et d'une efficacité théoriquement supérieure. Les comptes rendus radio ont décrit notre incroyable vol du 21 novembre, 4 heures sans escale au-dessus du haut plateau de glace, avec les gigantesques montagnes qui se dressaient à l'ouest et les silences insondables qui répondaient au bruit de nos moteurs. Le vent ne nous gêna que modérément, et nos radiocompas nous aidèrent à traverser le seul banc de brouillard opaque que nous rencontrâmes. lorsqu'une vaste masse apparut devant nous, entre 83 et 84 degrés de latitude, nous comprîmes que nous avions atteint le glacier de Birdmore, le plus grand glacier de vallée du monde, et que la mer de glace allait désormais faire place à un littoral montagneux renfrogné. Nous pénétrions enfin dans le monde blanc, mort depuis une éternité du sud absolu. Alors même que nous en prenions conscience, nous aperçûmes loin à l'est le titanesque mont Nansen, culminant à plus de 4000 mètres. Le succès de l'installation de la base sud au-dessus du glacier, à 86 degrés 7 minutes de latitude et 174 degrés 23 minutes de longitude est, et les forages et minages incroyablement rapides et fructueux que nous effectuâmes en différents points atteints en traîneau ou au terme de courts trajets d'avion relèvent du domaine de l'histoire. Tout comme l'ardue mais triomphale ascension du mont Nansen par Pabody et deux étudiants, Gedney et Carroll, du 13 au 15 décembre. Comme nous étions à quelque 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, lorsque des forages expérimentaux révélèrent par endroits la présence de la terre ferme à 12 pieds à peine sous la neige et la glace, nous fîmes un abondant usage de notre petit dispositif de fusion, sondant et dynamitant en de nombreux lieux où nul explorateur n'avait seulement envisagé de prélever le moindre spécimen minéral. Les granites précambriens et les grès de Bacon ainsi obtenus confirmèrent notre conviction que ce plateau était de même nature que la grande masse continentale à l'ouest, mais assez différent des régions situées à l'est, sous l'Amérique du Sud, région dont on pensait à l'époque qu'elle formait un second continent plus petit, relié à l'autre par un confluent gelé des mers de Ross et de Weddell, hypothèse depuis réfutée par Bird. Dans certains grès, dynamité et détaché au ciseau après que les forages eurent révélé leur nature, nous découvrîmes des traces et fragments fossiles d'un très grand intérêt, notamment des fougères, des algues, des trilobites, des crinoïdes, mais aussi des mollusques, par exemple des lingules et des gastéropodes. Autant d'indices qui nous semblèrent d'une importance certaine pour la recherche sur l'histoire primordiale du continent. Nous trouvâmes aussi une drôle de marque striée, formant un triangle dont le plus grand côté mesurait dans les 30 centimètres, et que l'aigre constitua à partir de trois fragments d'ardoise que l'on avait extraits d'un profond trou creusé à l'explosif. On avait découvert ces fragments à l'ouest, près de la chaîne de la reine Alexandra, et Lake, en tant que biologiste, sembla trouver leur curieuse striation particulièrement mystérieuse et excitante, même si, à mes yeux de géologue, elle n'était pas très différente des ondulations que l'on trouve assez souvent dans les roches sédimentaires. L'ardoise n'étant qu'une formation métamorphique, résultant de la pression d'une strate sédimentaire, et cette pression imprimant logiquement d'étranges effets de distorsion à des marques préexistantes, je ne voyais rien de bien étonnant dans cette dépression striée. Le 6 janvier 1931, Lake, Pabody, Danforth et les six autres étudiants, quatre mécaniciens et moi-même, survolâmes le pôle sud à bord de deux de nos gros appareils. À un moment, nous dûmes nous poser à cause du vent soudain et violent qui, heureusement, ne tourna pas à la tempête véritable. Ce vol, comme l'ont dit les journaux, était une mission d'observation parmi quelques autres, au cours desquelles nous essayâmes de trouver des éléments topographiques remarquables dans des zones encore inexplorées. De ce point de vue, nos premiers vols furent décevants, mais ils nous permirent de voir de magnifiques exemples de ces mirages propres aux régions polaires, mirages aussi trompeurs que fantastiques dont notre voyage en mer nous avait donné de brefs avant-goûts. De lointaines montagnes flottaient dans le ciel, telles des cités enchantées, et souvent, sous l'effet de la magie du soleil de minuit rasant, le monde blanc se dissolvait tout entier pour faire place à un pays or, argent et écarlate, digne de rêves d'Onsaniens et riche de promesses d'aventure. Par temps nuageux, nous avions beaucoup de mal à voler, car la terre neigeuse et le ciel avaient tendance à se confondre pour ne donner qu'un opalescent vide mystique, sans ligne d'horizon. Au bout d'un moment, nous décidâmes de mettre en œuvre notre plan initial et de partir à 800 km à l'est, avec nos 4 avions d'observation, afin d'établir un nouveau camp annexe sur ce que nous pensions à tort être le plus petit des 2 continents. Il serait intéressant d'y prélever des spécimens géologiques afin de les comparer au premier. Jusque-là, nous étions toujours en excellente forme, le jus de citron vert compensant efficacement le régime exclusivement composé de boîtes de conserve et de mets salés, et les températures, généralement supérieures à moins 20 degrés, nous permettant de nous passer de nos fourrures les plus épaisses. C'était le milieu de l'été et, en nous montrant appliqués et diligents, peut-être parviendrions-nous à terminer notre travail avant le mois de mars, ce qui nous épargnerait un fastidieux hivernage pendant toute la longue nuit antarctique. Plusieurs violents ouragans s'étaient abattus sur nous en provenance de l'ouest, mais nous avions évité les dégâts grâce à la compétence d'Atwood, qui savait construire des abris à avions rudimentaires et des brise-vents au moyen de gros blocs de neige, et avait pensé à renforcer les principaux bâtiments du camp avec des remblais. Notre chance et notre efficacité atteignaient vraiment des proportions surnaturelles. Le monde extérieur connaissait bien sûr notre programme, et eut aussi vent de l'insistance étrange, voire de l'obstination, avec laquelle Lake réclamait un voyage de prospection vers l'ouest, ou plus exactement vers le nord-ouest, avant notre déplacement définitif vers la nouvelle base. Il semblait avoir beaucoup médité, et avec une audace aussi radicale qu'alarmante sur cette ardoise à la marque triangulaire striée, il décelait entre sa nature et la période géologique dont elle était issue certaines contradictions qui excitaient sa curiosité au plus haut point et lui donnaient l'envie irrépressible d'effectuer d'autres forages et dynamitages dans la formation occidentale à laquelle, de toute évidence, appartenaient les fragments que nous avions exhumés. Il était bizarrement convaincu que la trace était l'empreinte d'un organisme massif, inconnu, tout à fait inclassable, mais particulièrement évolué, et ce en dépit du fait que la roche qu'il apportait était si ancienne, cambrienne, voire même précambrienne, qu'elle excluait l'existence non seulement de toute vie très évoluée, mais plus simplement de toute vie dépassant le stade unicellulaire ou, au mieux, du trilobite. Ces fragments, avec leur strie singulière, devaient dater de 500 millions à 1 milliard d'années. Deuxième partie. Je pense que l'imagination populaire réagit activement à nos bulletins radio sur le départ de Lake pour le nord-ouest et les régions que l'homme n'avait jamais foulées du pied, ni en imagination. Même si nous n'évoquâmes pas son fol espoir de révolutionner les domaines de la biologie et de la géologie. Sa première expédition de forage en traîneau, du 11 au 18 janvier, avec Pabody et 5 autres, expédition marquée par la perte de 2 chiens dans un accident survenu à la traversée d'une grande ride de pression dans la glace, avait exhumé bien d'autres fragments d'ardoises archéennes. Moi-même, je fus intrigué par l'étonnante profusion d'indéniables traces fossiles dans cette strate incroyablement ancienne. Ces marques, cependant, étaient celles de formes de vie très primitives et n'avaient rien de bien paradoxal, sinon le fait que des roches de toute évidence précambriennes portent les traces d'une forme de vie quelconque. Aussi avais-je toujours du mal à percevoir ce qui justifiait la demande de Lake d'ouvrir une parenthèse dans notre programme, étudié de manière à optimiser notre temps, parenthèse pour laquelle il réquisitionnerait nos 4 avions, beaucoup d'hommes et l'ensemble de l'équipement de notre expédition. En fin de compte, je ne m'opposais pas au plan, mais décidai de ne pas accompagner le groupe dans le nord-ouest malgré les suppliques de Lake, qui voulait mon conseil en matière de géologie. Pendant leur absence, je resterai à la base avec Pabody et 5 hommes, pour finir d'organiser notre relocalisation dans l'Est. En vue de ce transfert, l'un des avions avait commencé à remonter du détroit de McMurdo des réserves substantielles d'essence, mais cela pouvait attendre un peu. Je gardais un traîneau et 9 chiens, car il est imprudent de se retrouver ne serait-ce qu'un instant sans moyen de transport dans un monde inhabité où la mort règne depuis la nuit des temps. L'expédition de Lake vers l'inconnu, comme tout un chacun se le rappellera, envoyait ses propres comptes rendus depuis les émetteurs à ondes courtes des avions, compte rendu capté simultanément par le dispositif de la base sud et l'ARCAM, qui mouillait toujours dans le détroit de McMurdo. De là, nous les transmettions au monde extérieur par grandes ondes d'une longueur atteignant 50 mètres. Le départ eut lieu le 22 janvier à 4 heures du matin et nous reçûmes un premier message radio au bout de 2 heures seulement. Lake qui parlait d'atterrir et de faire fondre la glace sur une petite zone située à 500 km de nous afin d'effectuer un forage. 6 heures plus tard, un deuxième message particulièrement enthousiaste nous apprit qu'un travail particulièrement acharné avait permis de creuser un puits peu profond par fusion et de le dynamiter, et que cela s'était terminé par la découverte de fragments d'ardoise porteurs de plusieurs marques ressemblant à celles qui avaient tant intrigué Lake. 3 heures après, un bref bulletin annonçait la reprise du vol malgré le vent violent et glacial. Et lorsque j'envoyais un message dans lequel je m'élevais contre toute nouvelle prise de risque, un Lake expéditif me répondit que les spécimens qu'il venait de découvrir valaient tous les dangers. Son enthousiasme, compris-je, était si fort que Lake irait jusqu'à la mutinerie. Je ne pouvais rien faire pour l'empêcher de foncer tête baissée, quitte à compromettre le succès de l'expédition tout entière. Toutefois, il était consternant de l'imaginer s'enfoncer toujours plus avant dans cette traîtresse et sinistre immensité blanche, ce royaume des tempêtes et des mystères insondables qui s'étirait quelque 2 500 km jusqu'aux côtes méconnues de Gnox et de la Reine Marie. C'est alors qu'à peu près 1 heure et demie plus tard arriva, en provenance de l'avion en vol, ce message 2 fois plus enthousiaste encore, qui me laissa un sentiment presque diamétralement opposé et me fit regretter de ne pas être parti avec le groupe.
22h05, en vol. Après tempête de neige, avons repéré droit devant chaîne de montagnes plus élevées que toutes celles aperçues jusqu'ici. Je pourrais égaler l'Himalaya en comptant la hauteur du plateau. Latitude probable 76 degrés 15 minutes, longitude 113 degrés 10 minutes est, s'étend à perte de vue à gauche et à droite, présence possible de 2 volcans fumants, tous sommets noirs et dépouillés de neige, grand vent soufflant de la chaîne entrave navigation.
Après ce message, Pabody, les hommes et moi restâmes suspendus, haletants au récepteur. Imaginez ce titanesque rempart montagneux à 1100 km de nous enflammait notre désir d'aventure. Nous nous réjouissions que notre expédition, sinon nous-mêmes, l'ait découvert. Une demi-heure plus tard, Lake rappela.
Avion de Moulton forcé d'atterrir sur le plateau au niveau des contreforts, mais pas de blessés et réparation peut-être envisageable. Transférons l'essentiel dans 3 autres avions pour retour ou éventuel déplacement, mais long trajet inutile pour l'heure. Montagne dépasse l'imagination. Vais partir en éclaireur à bord de l'avion déchargé de Carole. Vous ne pourriez rien imaginer de tel. Plus hauts sommets doivent culminer à plus de 10 000 mètres. Everest of course. Atwood calculera hauteur au théodolite pendant que Carole et moi volerons. Me suis sans doute trompé pour les volcans, car formation semble stratifiée. Peut-être ardoise précambrienne mélangée à autres strates. Curieux découpage des montagnes sur le ciel. Section régulière de cubes accrochés au plus haut sommet. Ensemble magnifique sous la lumière rasante rouge dorée du soleil. Me fait penser à un pays mystérieux dans un rêve ou à un passage vers un monde interdit aux merveilles inviolées. Aimerais que vous soyez ici pour l'étudier.
Il était théoriquement l'heure de dormir, mais pas un seul auditeur ne songeait à se retirer. Il devait en être de même dans le détroit de McMurdo, où l'entrepôt et l'ARCAM recevaient aussi les messages, car le capitaine Douglas avait appelé afin de féliciter tout le monde pour cette importante découverte. Quant à Sherman, le responsable de la réserve, il partageait son sentiment. Nous étions bien entendu désolés pour l'avion endommagé, mais espérions qu'il serait facile de le remettre en état. Puis, à 23 heures, arriva un autre appel de Lake.
Avons survolé les plus hauts contreforts avec Carole. N'osons pas nous attaquer au très grand sommet avec ce temps, mais essaierons plus tard. Escalader et se déplacer à pareille altitude sera terriblement difficile, mais ça vaut la peine. Grande chaîne très dense, impossible de voir au-delà. Principaux sommets dépassent Himalaya et très étranges chaînes semblent faites d'ardoises précambriennes, avec signes évidents de nombreuses autres strates soulevées. Me suis trompé sur activité volcanique, s'étant à perte de vue des deux côtés. Fin des neiges au-dessus de 7000 mètres environ. Formations étranges sur pente des plus hautes montagnes, cubes peu élevés mais massifs, aux parois rigoureusement verticales, lignes droites de bas remparts verticaux, comme ces vieux châteaux asiatiques accrochés à des montagnes escarpées dans les tableaux de Roerich. Impressionnant de loin. Nous sommes rapprochés de certains, et Carole a estimé qu'ils étaient constitués de petits blocs distincts, mais c'est sans doute dû à l'érosion. La plupart des arêtes effritées et émoussées comme si exposées à des tempêtes et changements climatiques depuis des millions d'années. Des parties, surtout en haut, semblent faites d'une roche plus claire qu'aucune strate visible sur les versants, d'où origine cristalline évidente. Vol de près montre nombreuses entrées de cavernes, dont certaines de formes exceptionnellement régulières, rectangulaires ou semi-circulaires. Vous devez venir les étudier. Crois avoir vu remparts juchés tout droit sur un sommet. Altitude estimée entre 9000 et 10500 mètres. Suis moi-même à 6500 mètres par terrible froid mordant. Vent siffle en passant entre les cols et en entrant ou sortant des grottes, mais pas de danger pour l'avion jusqu'ici.
À partir de là, pendant une demi-heure, Lake nous abreuva de manière ininterrompue de commentaires et exprima l'intention de gravir certains sommets à pied. Je lui répondis que je le rejoindrais dès qu'il pourrait m'envoyer un avion et qu'avec l'aide de Pabody, je chercherais le meilleur plan de ravitaillement en carburant, car pour s'accommoder aux nouveaux objectifs de l'expédition, il nous fallait décider où et comment concentrer nos réserves. À l'évidence, les forages et reconnaissances en avion de Lake allait nous obliger à détourner une bonne partie de l'essence sur la nouvelle base qu'il comptait établir au pied des montagnes, si bien que la relocalisation dans l'Est risquait en fin de compte d'être reportée à la saison suivante. À ce propos, j'appelai le capitaine Douglas pour lui demander de vider autant que possible les bateaux et de monter leur contenu au sommet de la barrière à l'aide du seul attelage de chiens que nous avions laissé. Il nous fallait absolument établir une route de ravitaillement directe à travers la région inconnue séparant Lake du détroit de McMurdo. Lake me rappela plus tard pour m'annoncer qu'il avait décidé de monter le camp à l'endroit où l'avion de Moulton avait été forcé d'atterrir et où les réparations avaient déjà commencé. La couche de glace était si mince qu'elle laissait voir ça et là le sol noir, et Lake voulait conduire une opération de forage et de minage sur place avant d'entreprendre des sorties en traîneau ou de se lancer dans une quelconque ascension. Il parlait de l'ineffable majesté du paysage tout entier et des étranges sensations qu'il éprouvait à se trouver à l'ombre de ces immenses pics silencieux touchant le ciel comme une muraille au bord du monde. Les mesures au théodolite d'Atwood avaient donné une hauteur de 9000 à 10000 mètres pour les 5 pics les plus élevés. L'aspect érodé du terrain inquiétait visiblement Lake, car il prouvait que des vents prodigieux soufflaient parfois sur la région, des vents d'une violence sans commune mesure avec ceux que nous avions essuyés jusque-là. Son camp était à un peu plus de 8 kilomètres de l'endroit où se dressaient abruptement les plus hauts contreforts. Je sentais presque dans ses mots, qui avaient franchi 1100 kilomètres de vide glacial pour m'atteindre, une note d'angoisse inconsciente, lorsqu'il nous pressa d'en finir le plus vite possible avec l'exploration de cette nouvelle région insolite. À ce moment, il était sur le point d'aller dormir, après une journée de travail ininterrompue où il avait fallu faire preuve d'une célérité et d'une vigueur sans précédent, pour un résultat non moins exceptionnel. Le lendemain matin, j'eus une conversation radio à trois avec Lake et le capitaine Douglas, chacun dans sa base si éloigné des autres. Nous convînmes que Lake enverrait un avion nous chercher, Pabody, les cinq hommes et moi-même, ainsi que toute l'essence qu'il pourrait transporter. Et la question du ravitaillement, qui dépendait de l'éventualité d'un déplacement vers l'est, pourrait attendre quelques jours dans la mesure où Lake avait ce qu'il lui fallait pour chauffer le camp et forer. Il faudrait un jour ou l'autre réapprovisionner l'ancienne base sud, mais Si nous reportions le voyage vers l'est, nous n'en aurions pas l'utilité avant l'été suivant. Entre-temps, Lake enverrait un avion chercher une route directe entre ces nouvelles montagnes et le détroit de McMurdo. Pabody et moi nous préparâmes à fermer notre base pour une période qui pourrait s'avérer plus ou moins longue. Si nous hivernions en Antarctique, nous retournerions sans doute directement à l'Arkham depuis la base de Lake sans repasser par là. Comme certaines de nos tentes coniques étaient déjà renforcées à l'aide de blocs de neige tassés, nous décidâmes d'achever le travail de pérennisation du camp. Grâce à nos très larges réserves de tentes, Lake avait pu emporter de quoi ne pas risquer la pénurie, et ce même après notre arrivée. J'annonçais par radio que Pabody et moi serions prêts à partir pour le Nord-Ouest après une journée de travail et une nuit de repos. Nous ne fûmes cependant pas très assidus à la tâche après 16 heures, car c'est à peu près à ce moment que Lake commença à nous envoyer ses messages les plus extraordinaires et les plus exaltés. Sa journée de travail n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices, un survol des surfaces rocheuses presque à nu ayant révélé la quasi-absence des strates archéennes et primordiales qu'il recherchait et qui composaient une si large part des sommets colossaux se dressant à l'alléchante distance du camp. Pour la plupart, les roches aperçues étaient apparemment des grès jurassiques et comanchéens, et des schistes permiens ou triassiques, avec ici et là des massifs noirs et brillants suggérant du charbon dur et ardoisé. Cela découragea plutôt Lake, dont l'objectif était d'exhumer des spécimens plus vieux d'au moins 500 millions d'années. Il lui semblait clair que pour retrouver la veine d'ardoise archéenne porteuse des marques étranges, il allait devoir faire un long voyage en traîneau depuis les contreforts jusqu'aux pentes escarpées des gigantesques montagnes. Il avait néanmoins décidé d'effectuer des forages locaux dans le cadre du programme général de l'expédition. Il installa donc la foreuse et mit 5 hommes au travail pendant que les autres finissaient de monter le camp et de réparer l'avion endommagé. Il avait choisi la roche visible la plus tendre, du grès, à environ 400 mètres du camp, pour le premier prélèvement, et le forêt s'était très bien enfoncé sans que l'on ait trop souvent recours à la dynamite. C'était environ 3 heures plus tard, juste après les premières grosses explosions de l'opération, que l'on entendit les éclats de voix de l'équipe de forage et que le jeune Jedney, qui faisait office de contremaître, se précipita au camp pour annoncer l'incroyable nouvelle. Il avait découvert une grotte. Vers le début du forage, le grès avait fait place à une veine calcaire comanchéenne, regorgeant de minuscules fossiles de céphalopodes, de coraux, d'oursins et de spirifères avec des traces occasionnelles d'éponges siliceuses et d'os de vertébrés marins, ayant sans doute appartenu à des téléostéens, des requins et des chronodrostéens. En soi, la découverte était déjà assez importante, car il s'agissait là des premiers fossiles de vertébrés mis au jour par l'expédition. Mais lorsque, peu après, le forêt avait débouché dans un vide apparent, une nouvelle vague d'émotions 2 fois plus intense se propagea dans les rangs de l'équipe de forage. Une puissante explosion avait révélé le secret souterrain. À présent, par l'ouverture irrégulière d'environ 1,50 m sur 90 cm, s'offrait à la vue des chercheurs avides une section de calcaire peu épaisse creusée plus de 50 millions d'années auparavant par les eaux d'infiltration d'un monde tropical disparu. La couche évidée n'était pas profonde de plus de 2 mètres ou 2 mètres 50, mais s'étirait indéfiniment dans toutes les directions. L'air qui la parcourait avec indolence suggérait que l'excavation faisait partie d'un réseau souterrain étendu. Son plafond et son sol étaient abondamment dotés de stalactites et stalagmites, dont certains se rejoignaient pour former des colonnes. Mais le plus important était le vaste amoncellement de coquillages et d'ossements, qui par endroits obstruait presque le passage. Charriés depuis des jungles inconnues de fougères arborescentes et de champignons du Mésozoïque, et des forêts de cicadales, de palmiers éventails et d'angiospermes primitifs de l'ère tertiaire, ce pot-pourri d'ossements contenait plus de spécimens du Crétacé, de l'Éocène et d'espèces animales diverses que le plus grand des paléontologues n'aurait pu en compter ou en classer en un an. Des mollusques, des carapaces de crustacés, des poissons, des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des représentants des premiers mammifères, petits ou grands, connus ou non. Pas étonnant que Gedney soit revenu au camp au pas de course en poussant des cris et que tout le monde ait abandonné son poste pour se précipiter bille en tête dans le froid mordant vers le grand Derrick qui marquait l'emplacement d'une nouvelle porte ouvrant sur les secrets des entrailles de la terre et d'un passé depuis longtemps disparu. Une fois satisfait de sa curiosité initiale, Lake griffonna un message dans son carnet et demanda au jeune Moulton de rentrer en toute hâte au camp pour le transmettre par radio. Ce fut la première fois que j'entendais parler de la découverte. Il était question dans ce message de coquillages primitifs, d'os de chondrostéen, de placodermes, de restes de labyrinthodontes et de técodontes, de fragments crâniens de grands mosasaures, de vertèbres et de cuirasses de dinosaures, de dents et d'os d'ailes de ptérodactyles, de débris d'archéoptérix, de dents de requins du Miocène, de crânes d'oiseaux primitifs et d'autres ossements de mammifères archaïques, paléothérium, xiphodon, éohippie, oréodon, titanothère, entre autres. Il n'y avait rien d'aussi récent qu'un mastodonte, un éléphant, un chameau, un daim ou un quelconque bovin. Lake en conclut donc que les derniers dépôts remontaient à l'Oligocène et que la strate évidée était sèche, morte et inaccessible depuis au moins 30 millions d'années. D'un autre côté, la prédominance de formes de vie très primitives était on ne peut plus singulière. Même si la formation calcaire, de par la présence de fossiles incrustés typiques comme des ventricules, datait indéniablement du Comanchéen et pas davantage, les fragments libres comprenaient une proportion surprenante d'organismes jusqu'alors considérés comme provenant de périodes beaucoup plus anciennes, dont des poissons, mollusques et coraux remontant carrément au Silurien ou à l'Ordovicien. On en déduisait inévitablement que dans cette partie du monde, il y avait eu un degré de continuité unique et remarquable entre la vie d'il y a plus de 300 millions d'années et celle datant de 30 millions d'années seulement. Bien entendu, il était impossible de spéculer sur la pérennité de cette continuité après l'Oligocène, époque où la caverne s'était refermée. En tout état de cause, l'arrivée des effroyables glaces au Pléistocène, soit il y a quelque 500 000 ans, autant dire hier, comparé à l'âge de cette grotte, avait dû provoquer l'extinction de toutes les formes de vie primitives qui avaient localement survécu aux autres représentants de leur espèce dans le monde. Lake ne s'en tint pas à son premier rapport. Il envoya un nouveau message au camp avant même que Moulton ait eu le temps de revenir. Par la suite, Moulton resta près de la radio dans l'un des avions afin de me transmettre, ainsi qu'à l'Arkham, qui diffuserait vers le monde extérieur, les nombreux post-scriptums que Lake lui faisait porter par une succession de messagers. Ceux qui suivaient l'affaire dans les journaux se rappelleront l'enthousiasme que les rapports de cet après-midi-là suscitèrent chez les scientifiques. D'ailleurs, ils ont finalement abouti, après toutes ces années, à l'organisation de cette fameuse expédition Starkweather-More, que je désire tant détourner de ses objectifs. Mieux vaut reproduire ici mot pour mot les messages de Lake tels que l'opérateur MacTige nous les lut après les avoir notés en sténo. Fowler a fait découverte de la plus haute importance dans fragments de grès et de calcaire résultant du minage. Plusieurs empreintes triangulaires distinctes, striées comme celles de l'ardoise archéenne, prouvant que leurs propriétaires ont survécu depuis il y a plus de 600 millions d'années jusqu'à l'époque comanchéenne sans changement notable, sinon légère décroissance de la taille moyenne. En l'occurrence, les empreintes comanchéennes semblent plutôt plus primitives ou décadentes que les plus anciennes. Soulignez l'importance de la découverte auprès de la presse, aussi importante pour la biologie qu'Einstein l'est pour les mathématiques et la physique. Rejoins mes travaux précédents et en amplifie les conclusions. Semble indiquer, comme je le soupçonnais, que la Terre a connu un ou plusieurs cycles entiers de vie organique avant celui que nous connaissons et qui commence avec cellules archéozoïques. Espèces déjà évoluées et spécialisées il y a au moins 1 000 000 000 d'années, quand la planète était jeune et encore inhabitable pour toute forme de vie ou toute structure protoplasmique normale. Reste à savoir où, quand et comment elle s'est développée. Plus tard, en examinant fragments de squelettes de grands sauriens terrestres et marins et de mammifères primitifs, ait trouvé d'étranges blessures locales ou lésions de la structure osseuse ne pouvant être attribuées à aucun carnivore prédateur connu, quelle que soit la période. Blessures de deux sortes, perforations directes et profondes et incisions apparemment violentes, un ou deux cas d'os coupés net, peu de spécimens concernés, envoie chercher torche électrique au camp, allons casser stalactites pour étendre zone de recherche souterraine. Plus tard encore, est découvert étrange fragment de stéatite de 15 cm de long sur 5 d'épaisseur, totalement différent de toute formation visible dans les environs. Couleur verdâtre, mais aucun indice quant à la période. Curieusement lisse et régulier, en forme d'étoile à 5 branches aux pointes cassées, avec traces de clivage supplémentaires au niveau des angles intérieurs et au centre. Petite dépression lisse au milieu de la surface intacte. Origine et érosion éveillent notre curiosité. Probablement un accident dû à l'action des eaux. Avec sa loupe, Carole pense avoir trouvé des marques géologiquement significatives. Groupement de points minuscules suivant des dessins réguliers. Chien de plus en plus nerveux à mesure que le travail avance. Semble détester cette stéatite. Doit déterminer si elle a une odeur particulière. Ferait un nouveau rapport quand Mills reviendra avec de la lumière et que nous attaquerons la partie couverte.
22h15, découverte importante. À 21h45, Orendorff et Watkins travaillaient sous terre à la lampe lorsqu'ils ont trouvé un énorme fossile en forme de tonneau de nature totalement inconnue. Sans doute un végétal ou un spécimen géant de radiaire marin inconnu. Tissu manifestement conservé par sels minéraux. Dur comme du cuir, mais a gardé une étonnante flexibilité par endroits. Traces de cassures aux extrémités et sur le pourtour. 1,80 m de long, 1 m de diamètre au milieu, s'effilant jusqu'à faire 30 cm aux deux bouts. Forme de tonneau avec, à la place des douelles, 5 arêtes longitudinales en saillie. Appendice maigrelet semblable à des tiges sur les côtés, à l'équateur du corps, à mi-longueur des arêtes. Curieuse excroissance dans les sillons entre ces dernières, comme des crêtes ou des ailes qui se déploient et se replient à la manière d'éventail. Toutes très endommagées sauf une, qui a une envergure de près de 2,10 m. L'aspect rappelle certains monstres des mythes primitifs, en particulier les légendaires choses anciennes du Necronomicon. Les ailes semblent membraneuses, tendues sur une structure de tubes glandulaires, minuscules orifices apparents dans ces derniers, au niveau du bout des ailes. Extrémité du corps racornie, empêchant de regarder à l'intérieur. Impossible de savoir ce qu'il y avait aux endroits cassés. Devrait procéder à une dissection quand nous serons rentrés au camp. N'arrive pas à trancher entre animal ou végétal. Nombreuses caractéristiques témoignant d'une primitivité presque incroyable. Et affecter toute l'équipe à la découpe des stalactites et à la recherche d'autres échantillons. Avons trouvé d'autres os endommagés, mais ils devront attendre. Les chiens posent un problème. Ils ne supportent pas le nouveau spécimen et le tailleraient sans doute en pièces si nous ne les tenions pas à distance. 23h30. Attention, d'ailleurs, Pabody Douglas. Événement de la plus haute importance. Je qualifierais même d'exceptionnel. L'Arkham doit transmettre sur le champ à la station de Kingsport Head. L'étrange chose en forme de tonneau est la créature archéenne qui a laissé les empreintes dans la roche. Mills, Boudreau et Fowler en ont découvert 13 autres regroupés sous terre à 13 mètres de l'ouverture. Mélangés à des fragments de stéatite bizarrement arrondis et configurés, et plus petits que le premier. En forme d'étoile mais pas de cassure, sauf parfois à l'extrémité des pointes. Sur les spécimens organiques, 8 sont apparemment en parfait état, avec tous leurs appendices. Nous les avons tous remontés à la surface et avons éloigné les chiens. Ils ne les supportent pas. Notez bien la description et répétez-la pour plus de sûreté. Les journaux doivent la reproduire sans erreur. Les sujets font en tout 2,40 m de long, torse en tonneau à 5 arêtes, 1,80 m de long. Diamètre 1 m au centre, 30 cm aux extrémités. Gris foncé, flexible et extrêmement dur. Aile membraneuse de 2,10 m, même couleur, sortant des sillons entre les arêtes. Trouvé replié. Structure tubulaire ou glandulaire, d'un gris plus clair, avec des orifices au bout des ailes. Déployées, elles ont les bords dentelés. Sur le pourtour du diamètre central, du milieu de chacune des 5 saillies longitudinales rappelant les douelles d'une barrique, partent 5 faisceaux flexibles de bras ou tentacules gris clair, trouvés étroitement repliés contre le corps, mais extensibles jusqu'à une longueur de plus de 90 cm, semblables à des bras de crinoïdes. La tige, tout d'abord unique, d'une épaisseur de 7 cm, se scinde au bout de 15 cm en 5 branches, dont chacune se sépare à nouveau après 20 cm en 5 vrilles ou petits tentacules effilés, soit un total de 25 par tige. Au sommet du torse, un épais cou bulbeux d'un gris moins foncé et portant des sortes d'ouïes soutient ce qui semble être une tête jaunâtre en forme d'étoile de mer à 5 branches recouvertes de cils drus, longs de 7 cm et diversement colorés. Tête épaisse et bouffie, d'environ 60 cm d'une pointe à l'autre. Chaque pointe étant garnie de tubes jaunes flexibles de 7 cm. Au-dessus et exactement au milieu se trouve une ouverture servant probablement à respirer. Chaque tube se termine par une excroissance sphérique sur laquelle une membrane flavescente se retrousse sous le doigt pour découvrir un globe vitreux à iris rouge, un œil de toute évidence. 5 tubes rougeâtres, légèrement plus longs, partent des angles intérieurs de l'étoile et se terminent par des renflements, sortes de sacs de même couleur qui, à la pression, s'ouvrent sur des orifices en forme de cloche de 5 cm de diamètre maximum. Sans doute des bouches, car bordés d'excroissances blanches et pointues rappelant des dents. Tous ces tubes, cils et bras d'étoiles de mer trouvés étroitement repliés, tubes et pointes collés au cou bulbeux et au torse. Flexibilité surprenante malgré l'extrême fermeté. En bas du torse se trouvent les équivalents approximatifs des dispositifs de la tête, mais avec des fonctions différentes. Un pseudo-cou bulbeux gris clair, sans ouïes, se termine par un organe verdâtre en forme d'étoile de mer à 5 bras. Bras durs et musculeux, longs d'1,20 m, dont le diamètre de 18 cm à la base diminue pour atteindre 6 cm au bout. À chaque pointe est attaché le petit côté d'un triangle glauque et membraneux, parcouru par 5 nervures, long de 20 cm et large de 15 au bout. C'est là la pagaie, la nageoire ou le pseudopode qui a laissé son empreinte sur les roches vieilles d'un milliard à 50 ou 60 millions d'années. Des angles intérieurs de l'organe en forme d'étoile de mer partent d'autres tubes rougeâtres, de 60 cm ceux-là, dont le diamètre s'effile de 7 à 2 cm de la base à l'extrémité. Des orifices au bout. Tous ces éléments sont extrêmement résistants, avec une texture de cuir, tout en restant particulièrement flexibles. Les membres d'1,20 m se terminant par une pagaie servent à n'en point douter à la locomotion, qu'elle soit marine ou autre. Quand on les actionne, suggère une puissance musculaire hors norme. Dans l'état, tous ces appendices sont fermement repliés contre le pseudo-cou et le début du torse, comme ceux de l'autre bout. Encore impossible de trancher entre animal et végétal, mais les probabilités tournent en faveur de l'animal. Sans doute s'agit-il d'une forme incroyablement évoluée de radière ayant conservé certains traits primitifs. Des ressemblances sans équivoque avec les échinodermes en dépit d'indices localement contradictoires. déconcertante structure des ailes étant donné le probable habitat marin, mais elles ont pu servir à la navigation. Symétrie étrange, rappelant la structure essentiellement haut-bas des plantes plutôt que celle avant-arrière des animaux. Évolution extraordinairement ancienne, précédant même les protozoaires archéens les plus élémentaires connus à ce jour. Impossible de donner une hypothèse quant à son origine. Idée d'une existence ancienne hors Antarctique désormais inévitable, les spécimens complets présentant une ressemblance étonnante avec les créatures des mythes originels. Dyer et Pabody, qui ont lu le Necronomicon et vu les peintures cauchemardesques de Clark Ashton Smith inspirées du texte, me comprendront si je parle des choses très anciennes, censées avoir créé toute vie terrestre par erreur ou par jeu. Les chercheurs pensent depuis toujours que le concept est né de la description de radiaires tropicaux très primitifs, passés au crible d'une imagination morbide. Rappelle aussi les créatures du folklore préhistorique dont parlait Wilmart, un prolongement du culte de Cthulhu, etc. Un vaste champ d'études est ouvert, dépôt probable de la fin du Crétacé ou du début de l'Éocène, à en juger par les différents spécimens. D'imposants stalactites se sont formés au-dessus d'eux, extraction ardue, mais leur solidité limite les dégâts. État de conservation miraculeux, en raison évidemment de l'action du calcaire. Rien trouvé d'autre pour l'instant, mais reprendrons les fouilles plus tard. Il nous faut maintenant rapporter 14 énormes spécimens sans l'aide des chiens qui aboient furieusement et qu'on ne peut laisser approcher. À 9, 3 hommes sont partis garder les chiens, nous devrions nous en sortir avec les traîneaux malgré le vent contraire. Devons établir liaison aérienne avec Détroit de McMurdo pour commencer transfert de nos découvertes. Mais je dois disséquer l'une de ces choses avant de prendre le moindre repos. Si seulement j'avais un vrai laboratoire à ma disposition. J'espère que Dyer s'en veut d'avoir tenté d'empêcher ce voyage dans l'Ouest. D'abord les montagnes les plus hautes du monde et maintenant ça. Si cette découverte n'est pas le clou de l'expédition, je me demande ce qu'il est. La gloire scientifique est à nous. Félicitations, Pabody, pour la foreuse qui a ouvert la grotte. À présent, l'Arkham peut-il répéter la description ?
Les sentiments que nous éprouvâmes, Pabody et moi-même, à la réception de ce rapport, dépassent pour ainsi dire toute description. Quant à nos compagnons, ils n'étaient pas en reste d'enthousiasme. McTeague, qui avait traduit à la hâte quelques points essentiels à mesure que le récepteur bourdonnant les émettait, retranscrivit le message entier à partir de sa version sténographiée dès que l'opérateur de Lake mit fin à la communication. Tous appréciaient l'importance historique de la découverte, et j'envoyais mes félicitations à Lake dès que la radio de l'Arkham eut répété comme demandé les parties descriptives. Sherman et le capitaine Douglas m'imitèrent, le premier depuis le poste TSF de l'entrepôt du détroit de McMurdo, le second depuis l'Arkham. Plus tard, en tant que chef de l'expédition, j'envoyais au bateau quelques remarques supplémentaires à transmettre au monde extérieur. Bien sûr, il était illusoire de penser dormir dans l'enthousiasme ambiant. Je ne souhaitais qu'une chose, gagner le camp de Lake aussi vite que possible. Je fus donc déçu lorsqu'il me fit dire qu'un vent de plus en plus violent venant des montagnes rendait pour l'heure tout déplacement aérien impossible. Mais une heure et demie plus tard, une recrudescence d'intérêt me fit oublier ma déception. Lake envoya de nouveaux messages dans lesquels il racontait le transfert totalement réussi des 14 grands spécimens dans le camp. La tâche n'avait pas été aisée car ils étaient étonnamment pesants, mais à 9, les hommes s'en étaient très bien acquittés. À présent, une partie de l'équipe s'attelait au plus vite à la construction d'un enclos de neige à distance raisonnable du camp, enclos où il serait plus commode de nourrir les chiens. On avait déposé les spécimens sur la neige compacte près du camp, sauf un que Lake s'escrimait à disséquer. Et cela semblait justement plus compliqué que prévu. En effet, malgré la chaleur du poêle à essence dans la tente laboratoire fraîchement dressée, les tissus trompeusement flexibles du spécimen, que Lake avait choisi intact et vigoureux, ne perdaient rien de leur coriacité. Le biologiste ne savait comment pratiquer les incisions nécessaires sans forcer, au risque d'abîmer toutes les subtilités structurelles qu'il cherchait à étudier. Certes, il disposait de 7 autres spécimens parfaits, mais c'était tout de même trop peu pour en user à la légère, à moins que la caverne finisse par en fournir un nombre illimité. Il renonça donc à ouvrir celui-ci et en fit apporter un autre auquel il restait des vestiges d'organes en étoile de mer aux deux extrémités, mais qui étaient fort endommagés et partiellement ouverts le long des grands sillons de son torse. Les résultats nous parvinrent vite par TSF. Ils étaient à la fois déconcertants et tout à fait passionnants. Il était impossible d'être un tant soit peu délicat ou précis avec des instruments à peine capables de découper ces tissus anormaux. Mais le peu qui fut fait nous laissa tous sans voix et perplexes. Il allait falloir reconsidérer tout ce que l'on croyait savoir de la biologie, car cette chose ne pouvait être le produit de la croissance cellulaire telle que la science l'envisage. Il n'y avait, pour ainsi dire, aucune minéralisation, et malgré leur âge, peut-être 40 millions d'années, les organes internes étaient totalement intacts. Le caractère coriace, inaltérable et presque indestructible des tissus était indissociable de la structure de cet organisme et appartenait à quelques cycles paléogènes de l'évolution des invertébrés qui échappaient tout à fait à nos capacités spéculatives. Tout d'abord, Lake ne trouva que des parties sèches, mais lorsque le chauffage ramollit les tissus, un suintement organique à l'odeur âcre et repoussante apparut du côté intact de la chose. Ce n'était pas du sang, mais un épais fluide vert foncé qui avait apparemment la même fonction. Lake en était là quand on emmena les 37 chiens dans l'enclos encore inachevé, et, malgré la distance, la puanteur aigre et envahissante déclencha chez les bêtes des salves d'aboiements sauvages, entre autres démonstrations de nervosité. Loin d'aider à identifier l'étrange entité, cette première dissection ne fit qu'approfondir le mystère. Toutes les hypothèses sur ses membres externes se révélèrent correctes, et sur ce fondement, on ne pouvait vraiment hésiter à la ranger dans le règne animal. Cependant, l'inspection interne fit apparaître tant de caractéristiques végétales que Lake dut s'avouer complètement perdu. La chose était capable de digestion, avait un système circulatoire et éliminait les déchets par les tubes rougeâtres de sa base en forme d'étoile. À première vue, son système respiratoire paraissait filtrer l'oxygène plutôt que le dioxyde de carbone. Il y avait par ailleurs de drôles de chambres pour le stockage de l'air, et de non moins curieux procédés pour déplacer la respiration depuis l'orifice externe jusque dans au moins 2 autres systèmes respiratoires parfaitement développés, à savoir des branchies et des pores. Non seulement il s'agissait manifestement d'un amphibien, mais la chose semblait aussi adaptée à de longues périodes d'hibernation sans air. Lake nota la présence d'organes vocaux reliés au système respiratoire principal, mais il présentait des anomalies sans solution immédiate. Un langage articulé, c'est-à-dire une prononciation syllabique, paraissait à peine concevable. Mais l'émission de sons flûtés couvrant une gamme étendue était hautement probable. Le développement du système musculaire semblait presque anachronique. Le système nerveux était si complexe et évolué que Lake en resta interdit. Bien qu'excessivement primitif et archaïque par certains aspects, la créature possédait des centres ganglionnaires et des connexions relevant de la plus haute spécialisation. Son cerveau à 5 lobes était étonnamment perfectionné, et l'on constatait la présence d'un équipement sensoriel constitué en partie des épais cils de la tête et présentant des caractéristiques étrangères à tout autre organisme terrestre. La chose avait sans doute plus de 5 sens, de sorte que son comportement était impossible à déduire par comparaison avec les animaux existants. Cette créature, Lake en fit l'hypothèse, avait dû être d'une sensibilité aiguë, avec des fonctions finement différenciées dans son monde primitif, à l'instar des fourmis et des abeilles d'aujourd'hui. Elle se reproduisait à la manière des plantes cryptogames, en particulier les ptéridophytes, avec ses sporanges au bout des ailes. Sans doute se développait-elle à partir d'un thâle ou d'un protâle. Lui donner un nom à ce stade eût été pure folie. La chose avait l'apparence d'un radiaire, mais était manifestement plus que cela. Elle était en partie végétale, tout en possédant les trois quarts des éléments essentiels à une structure animale. Son origine marine était attestée par sa silhouette symétrique et certains autres attributs. Et cependant, on ne pouvait dire avec précision où s'arrêtaient ses dernières adaptations. Les ailes, après tout, évoquaient avec insistance une vie aérienne. Comment, sur une terre tout juste née, cette créature avait-elle pu connaître une évolution si incroyablement complexe et si rapide qu'elle avait laissé des empreintes sur des roches archéennes? Ce problème dépassait l'entendement et, bizarrement, rappela à Lake les mythes primitifs dans lesquels les grands anciens, descendus des étoiles, avaient créé la vie par erreur ou plaisanterie, mais aussi les récits extravagants sur des êtres des collines cosmiques d'un autre monde que racontait un collègue folkloriste du département d'anglais de l'université Miskatonic. Naturellement, Lake envisagea la possibilité que les empreintes précambriennes aient été laissées par un ancêtre moins évolué des spécimens étudiés, mais rejeta bientôt cette théorie trop simple au vu des qualités structurelles avancées des fossiles plus anciens. En l'occurrence, les caractéristiques des spécimens postérieurs donnaient des signes de décadence plutôt que d'évolution. La taille des pseudopodes avait diminué, et la morphologie dans son ensemble paraissait plus fruste et simplifiée. D'ailleurs, les nerfs et autres organes que Lake venait d'examiner suggéraient une singulière régression par rapport à des formes encore plus complexes. Les parties atrophiées et vestigiales étaient étonnamment répandues. Dans l'ensemble, Lake n'avait pas résolu grand-chose. Il dut donc se rabattre sur la mythologie pour trouver un nom provisoire et, comme par plaisanterie, donna aux créatures le sobriquet d'anciens. Vers 2h30, ayant décidé de remettre son travail pour prendre un peu de repos, Lake recouvrit d'une bâche l'organisme disséqué, quitta la tente laboratoire et considéra les spécimens intacts avec un intérêt renouvelé. Le soleil perpétuel de l'Antarctique avait commencé à réchauffer quelque peu leurs tissus, et les pointes et tubes de la tête de deux ou trois d'entre eux semblaient en voie de déploiement. Toutefois, Lake ne croyait pas à un danger de décomposition immédiat, étant donné la température. Il rapprocha par contre tous les spécimens non disséqués les uns des autres et jeta sur les corps une toile de tente inutilisée afin de les protéger des rayons directs du soleil. Cela empêcherait peut-être aussi les chiens de sentir leur odeur, la nervosité et l'hostilité des bêtes commençant vraiment à poser un problème malgré la distance et la hauteur sans cesse croissante des murs de neige qu'un contingent d'hommes de plus en plus nombreux se dépêchait de dresser. Lake dut lester les coins de la toile avec de lourds blocs de neige pour la maintenir en place, car le vent soufflait de plus en plus fort, signe que les montagnes allaient bientôt déchaîner une très violente tempête. Nos inquiétudes initiales quant aux brusques rafales antarctiques étaient ravivées, et sous la supervision d'Atwood, on entreprit de dresser des remblais de neige du côté des montagnes pour protéger les tentes, l'enclos des chiens et les rudimentaires hangars à avions. Les dix hangars, commencés avec des blocs de neige tassés à des moments perdus, étaient loin d'être assez hauts. Lake dut mettre l'équipe entière au travail tout à fait cessante pour les finir. Il était plus de 4 heures quand Lake se déclara enfin prêt à couper la transmission et nous conseilla de prendre du repos, comme son équipe lorsque les abris seraient un peu plus hauts. Pabody et lui eurent une discussion amicale sur les ondes, au cours de laquelle le biologiste réitéra ses compliments sur les foreuses véritablement exceptionnelles qu'il avait aidées dans sa découverte. Atwood envoya aussi ses salutations et ses éloges. J'adressai mes chaleureuses félicitations à Lake et concédai qu'il ne s'était pas trompé pour l'expédition dans l'Ouest, puis nous nous mîmes tous d'accord pour reprendre contact par TSF à 10 heures. Si la tempête était terminée, Lake enverrait un avion nous chercher à la base. Juste avant de me retirer, j'envoyai un dernier message à l'Arkham, dans lequel je donnais pour instruction d'atténuer les nouvelles du jour à l'intention du monde extérieur, car il me semblait nécessaire d'étayer nos dires, les détails complets me semblant assez renversants pour susciter une vague d'incrédulité.